Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France sur secours-islamique.org. Ramadan, célébrons le partage.
19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Ce soir, c'est plutôt Ramadan and Coins, Imam Abdelali.
Bitcoin, c'est ça? Bitcoin, oui. On va parler de la crypto-monnaie ce soir, Inch'Allah. Beaucoup de gens s'interrogent. Est-ce que c'est halal? Qu'est-ce que c'est que ce Bitcoin? Est-ce que c'est crypto-monnaie? Voilà. Moi aussi, j'ai envie d'en savoir un peu plus.
Oui, parce que vous avez de l'argent sous votre matelas.
Voilà. Et j'ai envie d'acheter des Bitcoins.
Ouais, exactement.
Bitcoins, on dit avec un S à la fin.
Non. Pas de S.
Bitcoin.
BTC. Tu peux dire le BTC.
Le BTC.
Je crois qu'il vaut mieux dire BTC parce BTC, que Bitcoin. C'est moins dangereux, à mon avis.
Ok. Bon, non, ça va. C'est pas très difficile à dire que ça. Bon.
On va parler de crypto-monnaie. Il y a énormément de questions et effectivement, pas toujours de réponses concernant ces fameuses crypto-monnaies. Donc, on en parlera tout à l'heure. 20h55, c'est l'ADN en direct ce soir. Imam Abdelali, profitez des ADN chaque soir différents et en direct. On arrive dans la dernière décade. Donc, voilà, il faut commencer à vraiment en profiter, Imam Abdelali.
Ouais, tout à fait. Nous sommes dans la dernière décade. Il faut profiter de ce moment de spiritualité intense qui nous est offert par Allah Azza wa Jalla, dans lequel, bien entendu, le prophète alayhi salatu wassalam était particulièrement enthousiaste et plein d'engouement dans la pratique religieuse, comme l'en témoigne Umuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, annahu kana fil ashr awakhir akthar ash-shahada min ghayrihi. Il était plus dans l'effort, dans la pratique. Il pratiquait la tikaf, la retraite spirituelle, dans la mosquée, il consacrait tout son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'isolait un petit peu des gens, voilà, un petit peu même de ses femmes, puisque le Coran lui-même interdit pendant cette retraite spirituelle, même la nuit, y compris la nuit, d'approcher ses femmes. قال تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. Aïcha radiallahu anha, bien entendu, on a profité pour essayer d'interroger le prophète et lui demander, mais ya Rasulallah, qu'est-ce qui est bien à dire pendant ces 10 dernières nuits? Quelle est la meilleure invocation à dire en espérant que la nuit dans laquelle nous serons correspondra avec la nuit du destin, la nuit du mérite, la nuit de la prédestinée, la nuit de la... etc. Bref, eh bien le prophète a répondu, dis ya Aïcha, oh mon Dieu, tu es la grâce, tu aimes la grâce, comble-moi de ta grâce. Vous pouvez le dire en français, hein. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Bon, alors si vous avez des questions sur les crypto-monnaies ce soir, les produits financiers islamiques, vous pourrez les poser à notre invité Boubker Hajdir. On commence cette émission avec le professeur Raouti Rezali qui a mené l'enquête sur le sens des mots, cette enquête de sens.
Beurre FM, les grandes signatures du Ramadan. Enquête de sens, professeur Raouti Rezali.
Ramadan, nous sommes dans le mois de Ramadan, qui assez habituellement est translittéré par le mot Ramadan. Du coup, aujourd'hui, on s'intéresse au sens, à l'étymologie de ce mot. Qu'est-ce que veut dire le mot Ramadan, qui signifie le 9e mois de l'année lunaire? Les Arabes du moment coranique utilisent la racine Ramadan, d'où vient le mot Ramadan, pour signifier une chaleur intense, accablante, ou l'intensité d'une chose. À chaque fois qu'ils veulent signifier qu'une chose est exposée à une chaleur intense, la chaleur du soleil, ils vont utiliser cette racine de Ramadan. D'ailleurs, toute la charge imaginative qui tourne autour de cette racine renvoie à ces deux notions d'intensité et de chaleur. Lorsque nous nous intéressons à la fonction de la chaleur, on peut trouver l'idée d'intégration. La chaleur permet à un certain nombre de choses d'être intégrées. Ce n'est pas pour rien que dans un certain nombre de traditions, nous faisons suivre la nourriture par une boisson chaude et non pas une boisson froide. Parce que la boisson chaude va permettre effectivement à l'organisme de mieux intégrer ce qu'il y a à intégrer dans la nourriture qui vient d'être consommée. Ensuite, la deuxième idée qui est importante pour le mois de Ramadan, c'est que c'est le 9e mois de l'année. Et le 9, d'un point de vue symbolique, et spirituelle renvoie à la notion de fécondité. Nous avons les 9 mois durant lesquels va se former le fœtus et va pouvoir venir au monde. Donc dans le 9, symboliquement, renvoie à la notion de fécondité, à la notion de fin de cycle et surtout à la possibilité d'un nouveau cycle. Et le 9 qui est suivi d'un autre 9 et qui est suivi dans un autre 9, dans un espèce de prolongement cyclique éternel, afin qu'effectivement chaque naissance puisse donner à une nouvelle naissance, à une renaissance. Et d'ailleurs, l'être humain est en quête de renaissance, de changement et de nouveauté. Et durant ce mois, en fait, on a aussi l'idée de ce qu'on peut appeler la neuvaine. Alors la neuvaine, c'est le fait que 9 jours s'enchaînent avec une finalité, une fonction, un objectif bien particulier. Et on se rend compte que durant ce mois, en fait, on a la succession de 9 jours qui se succèdent à 3 reprises. Ce qui va nous donner 27 jours. 3 fois 9 fait 27, d'après ma table de multiplication. En fait, les 9 jours qui se succèdent 3 fois vont permettre effectivement de parachever les 3 grandes finalités du jeûne du mois de Ramadan, qui sont la taqwa, qu'on a déjà vu, qui veut dire la prémunition, le fait de se prémunir. La deuxième finalité, qui est le shukr, qu'on traduit habituellement par gratitude et sur lequel on reviendra. Et la troisième grande finalité, qui est rusht, qui est souvent traduit par la guidance et sur lequel effectivement il faudra aussi qu'on revienne. Donc Ramadan, finalement, c'est le mois du neuf, c'est le mois du parachèvement, c'est le mois qui permet effectivement à la personne d'intégrer ce qu'il y a intégré d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel et surtout d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire intégrer les vérités divines contenues dans le Coran.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
L'appli Beurre FM.
Beurre FM. Le Ramadan, 30 jours avec vous.
30 jours avec vous.
Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Alors, je ne sais pas encore, Imam Abdelali, si on peut verser la zakat en crypto-monnaie, mais en tout cas, on va s'intéresser aux crypto-monnaies ce soir avec Boubker Hajdir, qui est notre invité. Bonjour, Boubker.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Imam. C'est notre plaisir de vous retrouver.
C'est notre bout de cœur. Morceau de cœur. Ni qut'at al-qalb.
Abou Bakr,
qui porte le nom du premier calife de l'islam, Abou Bakr Siddiq.
Ouais, j'en suis très très loin, mais bon.
On aspire à vouloir imiter ces modèles.
Ouais. Expert en finance islamique, et on va parler avec vous ce soir des crypto-monnaies. Il y a énormément de questions qui circulent. Et évidemment, la première question, c'est est-ce qu'elles sont halal ou pas?
Non, la première avant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, avant de lui dire que c'est halal ou pas halal. Qu'est-ce que c'est? On parle de monnaie numérique, mais qu'est-ce que ça veut dire une monnaie numérique?
Alors, c'est vrai que le mot crypto-monnaie, il contient le mot monnaie, et là, j'ai envie de dire que parfois ça prête à confusion. Et puis il y a le mot crypto. Alors, crypto, c'est la cryptographie, c'est un système, on va dire, informatique qui apporte de la sécurité sur cette technologie. Et en réalité, on ne peut pas réellement qualifier cela de monnaie. Alors tout de suite, là, je sais que je ne vais pas me faire de grands amis, parce que d'un point de vue purement réglementaire, les autorités françaises et les autorités européennes et dans d'autres pays aussi ont clairement dit que ce ne sont pas des monnaies au sens juridique du terme.
Avant, on disait battre la monnaie.
On disait battre de la monnaie, et puis la monnaie, elle a un certain nombre d'attributs que l'on ne retrouve pas dans ces crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, les crypto-monnaies sont qualifiées de ce qu'on appelle crypto-actifs. Donc c'est une terminologie un petit peu technique, mais ce n'est rien d'autre que la représentation digitale d'un projet informatique auquel on donne une certaine valeur, et puis ensuite on va aller le vendre ou l'acheter sur une place de marché sur laquelle s'échange. Donc c'est crypto-actif. Mais les autorités appellent à la plus grande vigilance sur cette nouvelle forme d'investissement, parce qu'elle est hautement risquée et hautement volatile, et parce qu'aussi elle n'est pas encore totalement encadrée.
Alors pour que les auditeurs comprennent, à l'origine, c'est quelqu'un qui est venu sur le net, dans les réseaux finance, et qui a décidé de créer une sorte de valeur fiduciaire qui a juste parce qu'elle a, elle a un pouvoir de confiance. Elle a réussi à imposer une sorte de confiance auprès des différents, on va dire, agents qui pratiquent des transactions financières.
Alors, on va dire, si on remonte à l'origine, effectivement, bon, la première des crypto-monnaies la plus célèbre, c'est le Bitcoin, voilà, qui est né en 2008-2009 par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Mais on ne sait pas qui est ce Satoshi Nakamoto.
C'est un pseudo.
C'est un pseudo. On ne sait pas si c'est une personne, un homme, une femme, un groupe de personnes.
Un japonais. Ouais.
Voilà. Il y a un Américain qui revendique être le Satoshi Nakamoto, mais il n'a pas encore apporté la preuve.
Il y a pas mal de choses qui circulent, des rumeurs.
Il y a des gens qui disent c'est la CIA. Enfin bref, on ne sait pas qui c'est derrière. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme ou un groupe de personnes. Bref, il a développé un code informatique. Et c'est né en fait en 2008, en plein cœur de la crise financière. Et c'est né en fait, si vous voulez, d'un mouvement. Qui disait, en gros, pour faire simple, on en a marre de ce pouvoir central, donc le pouvoir des banques centrales, qui décide de tout, qui, pour ouvrir un compte en banque, il faut présenter patte blanche, comme on dit, etc., etc. Et donc, il a inventé un dispositif technologique qui permet de transférer de la valeur de toi à moi, par exemple, sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance. Aujourd'hui, si j'ai besoin de te faire un virement, bah, je dois passer par ma banque. Ma banque, elle me connaît. Elle te connaît, et donc on passe par ce tiers de confiance. Bah, à travers le Bitcoin, ou à travers la technologie blockchain sur laquelle circule le Bitcoin, on peut transférer de la valeur d'une partie A à une partie B sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Et c'est là où il a apporté une révolution dans le monde de la finance. Et donc à partir de là, d'autres crypto-monnaies sont nées, et puis aujourd'hui on en compte presque 19 500. Et il pousse
19 500.
Voilà, il pousse des dizaines de crypto-monnaies tous les jours. La semaine dernière, j'étais invité à une conférence où je parlais à peu près du même sujet. J'avais regardé combien il y avait de crypto-monnaies. Samedi dernier, il y en avait 18 600. Avant le début de l'émission, là, il y en a plus de 19 000. Donc en quelques jours, il y en a eu 500 qui sont sortis sur le marché. Mais toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques, toutes n'ont pas les mêmes finalités, et par conséquent, il faut faire très très attention à ce qu'on fait quand on rentre dans cet univers.
Maintenant, donc, la question de Philippe, c'est qu'est-ce que dit la religion musulmane au sujet de ce genre d'investissement ? Est-ce qu'un musulman a le droit d'investir dans la crypto-monnaie en achetant avec de l'argent réel ce truc qu'on appelle la crypto-monnaie, et de cette manière-là, pouvoir avoir une sorte de garantie ou de ce qu'on appelle de valeur sûre,
hein ? Mais déjà, est-ce que l'islam a envisagé les crypto-monnaies ?
Bien sûr que non.
Comme beaucoup de choses, l'islam,
ça fait partie des nouveautés, des nawazel, comme on dit.
C'est ça.
Les sajadat.
Oui, tout à fait. Sur quoi on se fonde justement pour pouvoir répondre.
C'est comme si on posait la question, est-ce que l'islam a envisagé l'internet ? Est-ce que l'islam a envisagé le poste de télévision ? Donc voilà,
prier dans un avion.
Ce qui est intéressant,
c'est qu'il y a des ulama, on ne peut pas prier dans un avion parce que pour prier, il faut être sur la terre.
Faut être sur la terre.
Voilà, il y en a qui disent ça. Bah alors celui qui fait déjà dans l'ISS, par exemple, la Station Spatiale Internationale, comment il prie plus là-bas?
Non, mais par contre, l'islam nous a enseigné un certain nombre de règles et de connaissances sur comment se comporter en tant qu'investisseur, en tant qu'agent économique. Et donc, face aux crypto-monnaies, on est juste de simples agents économiques. Soit on est un développeur qui développe, et donc à ce moment-là, j'ai un savoir-faire et un code et je crée quelque chose qui a une valeur et une utilité derrière. Soit je suis un investisseur ou entre guillemets un acheteur de crypto-monnaie, et là il y a aussi un certain nombre de règles à connaître. Et donc en matière d'investissement, à l'heure où on se parle, il n'y a pas encore de standard défini, il n'y a pas de position consensuelle sur comment statuer sur les crypto-monnaies d'un point de vue halal, haram, etc. Donc on est plutôt moubah, mamnour, ou certains, notamment en Afrique du Sud, par exemple, certains ulama d'Afrique du Sud ont dit clairement que c'était illicite, puis ils ont argumenté, notamment par le fait que c'est très très volatile, les crypto-monnaies sont très volatiles, dans certains cas, on ne sait pas qui est derrière, donc il y a une notion d'incertitude et d'aléa.
C'est pas transparent, quoi.
C'est pas qu'un problème de transparence, c'est vraiment un problème de confiance, tu ne sais pas avec qui tu peux interagir. Et la plus grande préoccupation des savants qui disent non aux crypto-monnaies, c'est parce qu'ils ont une préoccupation, ils ont peur que les musulmans se jettent dans cet univers-là et qu'ils y perdent beaucoup d'argent, parce qu'on peut rentrer très facilement. On a besoin de demander la permission de personne pour ouvrir un compte crypto. Et puis après, on peut perdre beaucoup d'argent parce que on est très très vite aspiré par l'appât du gain. Et malheureusement, voilà, on peut vite se faire mal aux dents sur ce marché-là. Donc il faut faire très très attention. Et voilà, donc il y a certains savants qui disent qu'on peut y aller, mais sous réserve d'un certain nombre de conditions, déjà, de savoir de quoi on parle.
Alors on verra les conditions tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser sur ces nouveaux produits financiers, les crypto-monnaies notamment, vous pourrez le faire au 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Et Imam Abdelali, je rappelle que l'ADN sera en direct ce soir à 20h55.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et nous parlons de finance islamique ce soir et de crypto-monnaie avec notre invité Boubker Hajdir qui est expert en finance islamique. Imam Abdelali, donc on est en train de définir ce qu'était un petit peu ces monnaies, ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui, comme vous, iraient sur Internet pour avoir des informations sur ces crypto-monnaies, Boubker, où est-ce qu'on peut trouver de l'information fiable? Sur quel site?
Oh, ça, c'est une très très grande question. En français, bon, il y a pas mal de sites internet qui renseignent sur les cryptos, sur le plan technologique et sur ce qui se passe au niveau des marchés des crypto-monnaies. Donc, il y a plein de sites de référence. On va pas faire la publicité ici, mais voilà, il y a quotidiennement, je vais même pas dire tous les jours,
un
mais
un site fiable qui peut être
publié pour savoir quoi
utile, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Moi, je suis tombé sur un truc, je sais même pas de qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle comme je disais tout à l'heure, TradeNow, voilà.
Non, tous ces sites où on parle de trading directement, il vaut mieux. C'est pas des sites de référence pour se renseigner.
Non, mais
ils reprennent
les éléments des savants.
Alors, c'est très souvent des traductions de choses écrites en anglais et qui sont pas forcément bien traduites en français. Et parfois aussi, on peut les lire en les sortant de leur contexte. Et donc, tout dépend de quel type d'information on cherche. Si on cherche de l'information entre guillemets halal versus haram, il n'y a pas un site de référence, il y a pas mal de littérature dessus. Il y a un institut qui est basé en Malaisie, qui a fait tout un papier de recherche assez approfondi là-dessus, qui est très intéressant, mais qui n'est pas disponible en français. Si on cherche de l'information technique et technologique, là, Internet regorge de sites sur ce sujet-là. Et si on cherche de l'information purement financière, où en sont les crypto-monnaies? Il y a des sites comme Coin Capital Market ou d'autres qui sont très connus, qui disent à la minute près quelle est la valeur d'une crypto et quel est aussi l'encours de crypto, combien pèse cette crypto-monnaie sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, tout dépend qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on a envie de savoir. Maintenant, on revient toujours à la question de islamiquement, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Il faut d'abord se renseigner sur quels sont les critères de l'investissement selon l'islam. Et à partir de là, on va pouvoir se faire une idée sur est-ce que je peux ou pas aller dans une crypto-monnaie ou une autre. Encore une fois, c'est très important d'insister sur ça. Il n'y a pas une réponse sur toutes les crypto-monnaies sont halal ou toutes les crypto-monnaies sont haram. Chaque crypto-monnaie, en fait, s'analyse de façon individuelle. Donc, en fait, derrière une crypto-monnaie, il y a un projet. Et donc, il y a normalement une offre de service où il y a une promesse de service.
C'est-à-dire, donne-moi un exemple.
Par exemple, tu as des crypto-monnaies qui sont dans le transfert d'argent. Tu as des crypto-monnaies qui sont dans la représentation d'œuvres d'art. Tu as des crypto-monnaies qui sont de plus en plus de choses aujourd'hui.
Et puis, est-ce qu'il y en a aussi dans des pratiques illicites telles que, par exemple, les jeux de hasard?
Bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui sont dans
les jeux de football, par exemple.
Il y a énormément énormément de cryptos qui sont dans le monde du jeu. Pas que du jeu de hasard, mais du gaming en général. Donc là où il faut regarder de très près de quoi on parle. Et il y a par contre des projets qui sont intéressants, qui sont récents. On parle par exemple de crypto-monnaies adossées à de l'actif immobilier, à des biens immobiliers. Ça, ce sont des choses qui sont assez récentes et qui, sur le plan réglementaire, ne sont pas encore totalement claires. Et donc, voilà. Donc,
est-ce que c'est pas appelé tout simplement un nom par un autre? C'est-à-dire, on a remplacé le mot action par crypto-monnaie? Parce que ça ressemble beaucoup à une action.
Alors, c'est pas vraiment une action, parce que quand tu achètes une action, tu es associé de la société dans laquelle tu investis.
Ah, mais quand tu achètes une part, tu investis dans l'immobilier. C'est bien, il y a bien une SCI, il y a bien une société.
Pas forcément. Quand tu investis dans l'immobilier, tu es propriétaire directement de l'immeuble, sans passer forcément par une société.
Comment tu arrives à transformer justement cet investissement immobilier dont tu es propriétaire.
Alors dans les cryptos c'est différent. Dans les cryptos c'est différent. Dans les cryptos on va dire par exemple on va lancer une crypto pour je vais pas l'appeler la BFM crypto, je vais l'appeler la BRFM crypto et vous allez en contrepartie donner un service à vos clients, vos auditeurs, vos annonceurs par exemple. On peut dire que cette crypto va donner la possibilité pour les annonceurs de passer gratuitement en contrepartie de la crypto sur l'antenne par exemple. Moi, quand je vais acheter cette crypto, je vais aller sur une bourse de crypto et je vais pouvoir vendre cette crypto à qui il veut bien l'acheter. Et donc, on va créer un marché sur lequel il va y avoir de l'offre et de la demande. Et puis, c'est à partir de là que la valeur de la crypto va ensuite se déterminer. Ce que je viens de dire là, à l'échelle du média comme BFM, ça n'existe pas, c'est assez virtuel. Mais on va trouver énormément de crypto dans plein de projets plutôt technologiques. Et donc là, il y a même des projets de crypto islamique. Voilà, donc au sens où on veut créer une monnaie qu'on va pouvoir, enfin une monnaie, un actif qu'on va pouvoir accepter dans les commerces, des projets de monnaie, enfin de crypto sur lesquels on va coder, par exemple, l'obligation de payer la zakat ou l'obligation de faire un versement en sadaqa, par exemple. Tout ça, c'est le développeur qui détient le savoir-faire pour coder des choses, qui va pouvoir le faire dans cette crypto-là.
Est-ce qu'on pourrait imaginer en France une sorte de monnaie parallèle à l'euro, qui avec laquelle on pourrait entrer dans des magasins et on achète et on pourrait faire
tout
des
à fait
achats
aujourd'hui par exemple
qui s'appellerait par exemple
tout à fait
l'euro islamique ou bien le dollar
tout à fait,
islamique
dans quelques années ça pourrait
ou le dollar chrétien ou je sais pas moi
tout ça peut aujourd'hui en fait avec la technologie il y a pas de limite. À partir du moment, en fait, on dit dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, je vais le dire en anglais, je vais le traduire après, on dit « the code is law », L-A-W. Le code, c'est la loi. À partir du moment où tu as un savoir-faire, tu sais coder, eh ben, la technologie blockchain est venue un peu bousculer les habitudes, et notamment les habitudes du pouvoir, de ceux qui détiennent le pouvoir.
Mais c'est quoi cette technologie blockchain?
C'est justement la technologie blockchain permet de faire des choses de façon décentralisée. On peut transférer des choses sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance.
Par exemple, la banque centrale, etc.
Voilà, plus besoin de la banque centrale, plus besoin de ma banque, plus besoin de l'impôt. Bref, c'est vraiment décentralisé.
Une application informatique.
Ce sont des ordinateurs qui sont répartis partout dans le monde et qui vérifient les transactions. Et donc, par exemple, je vais envoyer quelque chose à Philippe, ça va passer sur ton ordinateur. Ton ordinateur a une puissance de calcul suffisante qui va vérifier que ce que je suis en train d'envoyer est authentique, ok ? Mais tu ne seras pas le seul. Il y a un tas d'autres ordinateurs qui vont vérifier ça. Et quand ça va arriver chez Philippe, ce sera une bonne fois pour toutes. Et une fois que j'ai dépensé cette crypto, je ne peux plus dire que je l'ai.
Elle est à lui.
Elle est à lui. La valeur a été transférée.
Virtuelle, numérique.
C'est ça, ce qu'on appelle. On empêche
la valeur elle-même qui est virtuelle.
On empêche la double dépense. D'ailleurs, on dit que les crypto-monnaies sont déflationnistes, etc. C'est un autre débat. Ça empêche la double dépense. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas à la banque, en fait, quand tu empruntes de l'argent, on ne fait rien d'autre que cliquer sur l'ordinateur de la banque et on a créé quelque chose à partir de rien. La crypto, elle est créée à partir d'un code informatique et de la puissance de calcul d'un ordinateur qui fait que... Après, il y a différentes manières de créer de la crypto. Il y a des cryptos qui sont dites minées, comme le Bitcoin et l'Ethereum.
C'est-à-dire minées.
Minées, c'est l'ordinateur qui, s'il a une force de calcul suffisante, okay, il va valider une opération. Et parce qu'il a validé l'opération, il va être récompensé pour ça. Et donc, le réseau sur lequel il passe, il va lui donner du Bitcoin parce qu'il a validé l'opération. Donc ça c'est le minage, c'est comme si tu creuses, c'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin c'est l'or, c'est comme si tu creuses pour avec ta pioche pour avoir de l'or.
Mine, okay, tu augmentes ton capital.
Voilà, c'est une manière de faire de la crypto, mais cette manière là elle pose des problèmes d'ordre écologique parce que ça consomme énormément d'énergie. Il y a un débat autour de l'écologie sur les cryptos parce que voilà ça consomme énormément d'énergie. Donc il y a d'autres manières de faire qui sont développées.
Quelle énergie?
L'énergie électrique, l'énergie électrique. C'est pour ça que d'ailleurs que les cryptos minés sont très développés en Asie, notamment en Chine, parce que le coût de l'électricité est beaucoup plus bas qu'ici. Les mineurs, ceux qui ont les ordinateurs les plus puissants, pendant un certain temps, ils étaient, je vais pas dire à 70, voire 80% en Chine, parce que l'énergie là-bas coûte très peu cher. Mm-hmm. Les choses sont en train de changer, mais aussi parce qu'il y a d'autres manières de valider les transactions, sans passer par un minage, mais c'est un autre processus qu'on appelle le proof of stake et non pas le proof of work. C'est la preuve d'enjeu par la vérification, enfin POS, proof of stake. Et là, c'est juste le fait de détenir des crypto-monnaies qui fait que celui qui a le plus de crypto-monnaies va valider une opération. Donc on change un peu de paradigme et sur la manière de faire. Initialement, c'était du minage, on va dire à la force de la puissance de ton ordinateur. Maintenant, ce n'est plus que ça. C'est plus tu as de crypto, plus le réseau va te faire confiance pour valider l'opération. Et donc, on a, c'est une autre manière de faire qui est moins consommatrice d'électricité. Voilà, ça c'est...
Question importante. Est-ce que, il est intéressant pour nos auditeurs et auditrices, beaucoup d'entre eux sont musulmans, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que c'est halal? Est-ce qu'ils peuvent investir dans la crypto-monnaie? Est-ce que tu les encourages, toi, en tant qu'expert dans la finance islamique, tu les encourages à faire ça ou pas?
Alors, moi, j'encourage personne à investir. Je ne suis pas conseiller en investissement. C'est un métier réglementé. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit là-dessus. Parce que si on dit à quelqu'un investi dans la crypto et qu'il perd son argent, après, il va m'en vouloir. Ou à toi, si tu lui dis, vas-y, investis, il va t'en vouloir parce qu'à cause de toi, il aura perdu son argent.
Tu veux dire oui, à condition que, voilà, par exemple.
Moi, ce que je peux proposer, plutôt recommander, c'est que les gens s'intéressent à cet univers. Parce que, intellectuellement, il est très intéressant. Il permet de comprendre que les choses sont en train d'évoluer. Et deux, si on veut investir, il faut étudier crypto par crypto. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Alors, il faut regarder
donc
le projet.
C'est au cas par cas, quoi.
C'est vraiment au cas par cas.
Par exemple, le Bitcoin, par exemple.
Le Bitcoin, les savants, beaucoup d'entre eux disent aujourd'hui on peut détenir du Bitcoin. Il n'y a pas de problème à détenir du Bitcoin.
D'accord. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il est bien d'en acheter?
Mais ça coûte cher, le Bitcoin. Hein. Bitcoin, je n'ai pas regardé le cours du jour.
Le Bitcoin, à peu près.
Voilà, je n'ai pas regardé le cours du jour, mais c'est quelques dizaines de milliers. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Mais on peut acheter quelques centimes de Bitcoin, des petits bouts, parce que c'est divisible.
Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, il a envie d'avoir une valeur sûre. Il a peur que l'euro, un jour, s'effondre à cause de la guerre, etc. Ou le dollar s'effondre parce que les États-Unis aujourd'hui. Moi, avec le Bitcoin, je vais pouvoir peut-être avoir une valeur sûre.
Mais non, on ne peut pas dire que c'est une valeur sûre. Aujourd'hui, oui.
Peut-être le Bitcoin qui va couler et non pas le.
On peut dire que c'est une valeur sûre quand le Bitcoin coûte 50 000 dollars. Mais quand il descend du jour au lendemain à 35 000 dollars, est-ce qu'on peut dire que c'est une valeur sûre? Tu vois, et le Bitcoin a connu. C'est les montagnes russes, en fait. Les crypto-monnaies, c'est vraiment les montagnes russes. Ça monte et ça descend.
Volatile.
C'est la volatilité qui fait que. Est-ce que je peux considérer que c'est une valeur refuge? Donc, on ne peut pas.
Mais c'est ça. Mais est-ce que la volatilité fait que c'est une valeur halal ou pas?
Non, c'est pas uniquement sur la volatilité qu'on va déterminer la halalité ou pas. Non, c'est pas le comportement des autres qui fait que la. C'est comme si tu me parles d'un couteau. Un couteau, c'est fait pour couper du pain ou du beurre, mais c'est aussi fait pour tuer. Le Bitcoin, il a été fait pour transférer de la valeur. Maintenant, les montagnes russes sur les marchés, c'est pas inhérent au Bitcoin lui-même. C'est l'offre et la demande qui fait que ça monte et ça descend. Donc, c'est le comportement des gens.
Il n'y a pas cette volatilité dans la vraie monnaie.
Certaines monnaies aussi, parce qu'elles sont, contrôlées par les autorités. Parce qu'il y a un pouvoir central qui limite ça.
Bon, alors on attend vos questions sur les crypto-monnaies au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Vivez un Ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Beurre FM, Ramadan et solidarité, Medium Ra.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان ما ترادان الدعاء عند النداء وتحت المطر رواه الحاكم. D'après سهل بن سعد رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit deux invocations ne sont pas repoussées. L'invocation au moment de l'appel à la prière est celle faite sous la pluie. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce hadith, veut nous montrer les moments propices à l'invocation. L'invocation, lorsqu'il y a l'appel à la prière, à la mosquée, eh bien profitons-en et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour nos proches et pour l'humanité. L'invocation aussi, sous la pluie, durant une averse, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces invocations. La pluie est une miséricorde divine. Nous avons la chance de pouvoir la voir, alors remercions Allah subhanahu wa ta'ala et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer aussi cette pluie aux différents peuples et pays qui n'en ont pas. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nous aide à nous émanciper et à le connaître et accepte nos invocations.
C'était Ramadan et solidarité avec Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et que dit le droit musulman sur les crypto-monnaies? On en parle ce soir avec notre invité Boubker Hajdir, qui est expert en finance islamique. Et vous posez vos questions au 01 53 48 3000. Nous avons Radija qui est avec nous. Radija, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Salam.
Alaykoum salam.
Salam alaykoum.
Vous m'entendez?
Très bien,
Radija.
Oui.
Alors, c'est Radija. De Saint-Etienne.
Marhaba bik,
akhti Khadija. Je vous souhaite déjà bonsoir à tous, vous qui êtes présents à la radio.
Ahlan.
Merci, bonsoir.
Voilà, il est expert en finance. J'ai pas noté son nom, je suis désolée.
Aboubakar.
Aboubakar, enchanté. En tout cas, je souhaite un bon ramadan à tous, à l'humanité entière, et voilà, que les choses soient très positives à l'avenir, avec ces temps difficiles. Voilà.
Alors,
moi, je viens poser ma question. Je travaille plus ou moins dans la finance, mais musulmane. Il me semble, alors, je ne sais pas, reprenez-moi, peut-être que j'ai tort. Il me semble que les intérêts bancaires sont haram, interdits chez nous. Alors, pour revenir à la crypto-monnaie, il me semble avoir été informé par une formation interne en banque. Monsieur l'expert va peut-être m'arrêter. Sur le RGPD, ça vous dit quelque chose peut-être, le règlement général sur la protection des données?
Oui.
Et oui. Anti-blanchiment.
Oui.
Voilà. Alors, vous allez peut-être me suivre ou pas, peut-être pas. Moi, je rejoins sur la crypto-monnaie qui, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle permet d'acheter ou revendre des produits ou services illicites. Ce n'est pas très clair aujourd'hui et ça va même très très loin sur le côté illicite. Alors, je peux me tromper, mais aujourd'hui, on nous alerte quand même sur ce sujet-là. Est-ce que je me dois, en tant que musulmane, faire très attention, voire voilà, ne pas toucher à ça, vu notre religion, et voilà, on veut quand même être dans le bien-être et dans la route de Dieu quand même. Alors, je pense que ce sujet-là, pour moi, est très prématuré et qu'il faut faire très très attention. Est-ce que je me trompe ou pas?
Alors, en fait, oui, juste, il ne faut pas mélanger plusieurs sujets, en fait, madame, si vous permettez. Tout ce qui touche au RGPD, la lutte anti-blanchiment, etc., ça concerne tant les crypto-monnaies que ça concerne l'euro ou le dollar ou n'importe quelle autre monnaie, qui est, à partir du moment où on entre dans un système financier, il est demandé à ce qu'on sache à qui on a affaire. Aujourd'hui, dans le système financier classique, oui, quasiment, on sait à qui on a affaire, parce qu'il y a des obligations de divulgation d'informations. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est ouvert à tout le monde, et pendant très longtemps, jusqu'à encore même maintenant, tout le monde peut y accéder sans forcément divulguer son identité. Et donc, on dit que le monde des crypto-monnaies, il est pseudonyme. Il n'est plus, comme il était au début, totalement anonyme. Il est pseudonyme. Et il est beaucoup, il est peut-être même beaucoup plus transparent que le système financier classique, parce que on peut retrouver toutes les transactions. On peut savoir quelle transaction a eu lieu entre quelle et quelle clé et quelle autre clé, sans forcément savoir qui est l'identité derrière. Okay. Donc pour tout cet aspect-là, les autorités travaillent dessus justement pour que les choses soient un peu plus encadrées. Maintenant, il est vrai qu'on a beaucoup reproché aux crypto-monnaies de pouvoir faire des transactions illégales, ou illicites, mais dans le sens du droit positif. Oui, c'est vrai, on pouvait le faire il y a très longtemps, on peut encore le faire aujourd'hui, mais tout comme on peut faire des transactions illégales dans le monde de la drogue avec de l'euro, du dollar ou du cash.
L'alcool, la drogue et le tabac.
Oui, voilà, donc tout ça, ça peut... La crypto-monnaie ne règle pas le problème et n'est pas un problème supplémentaire, je veux dire, par rapport à ça.
Mais le côté un peu dissimulé, le caché, le côté un peu parallèle par rapport au circuit financier.
Tout ça, ça existe en dehors même du monde de la crypto-monnaie, donc c'est pas spécifique à la crypto-monnaie. Maintenant, par rapport à ce que disait notre sœur sur le caractère licite ou illicite au sens halal-haram, encore une fois, j'en reviens à de quelle crypto-monnaie on parle. À partir du moment où on a fait une analyse détaillée, pointilleuse d'une crypto-monnaie, on pourra se prononcer sur son caractère licite ou illicite. Et je crois que vous avez parlé aussi de riba tout à l'heure, d'intérêt. Oui. Il y a des crypto-monnaies aujourd'hui clairement sur lesquelles elles ont été créées que pour faire du prêt à intérêt. Donc typiquement, c'est le genre de crypto-monnaie qu'on ne peut pas détenir en tant qu'agent économique musulman. Mais il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas du tout dans cet univers-là. Et donc, encore une fois, regardons de quoi on parle et on pourra répondre sur le caractère licite ou illicite. Mais oui, par contre, aujourd'hui, on peut gagner beaucoup d'argent et très facilement dans l'univers de la crypto-monnaie parce qu'il y a des opérations qui s'appuient sur du riba derrière. Donc là, oui, il y a beaucoup de choses qui se... Voilà, beaucoup de choses qui se passent dans ces, voilà, sur cet univers-là. Voilà.
Oui, ça c'est conflictuel et je dirais même c'est difficile. Aller, à moins d'être un pro ou expert dans la finance, moi, enfin voilà, j'y suis dedans plus ou moins, mais sans être professionnel.
Effectivement, vaut mieux être accompagné.
Je préfère mettre la NIA et ne pas toucher, sachant cela. Alors, des gens qui nous écoutent, les auditeurs, se posent la question, est-ce qu'il faut plonger là-dedans? Parce que c'est vrai que c'est assez, j'ai envie de dire, c'est assez tordu quand même, ce monde-là. Hein. C'est assez,
non, je peux pas vous laisser dire ça, parce que les gens qui vont être dedans vont vous dire.
c'est
au contraire.
Je suis désolée. Hein. La déforestation de l'Amazonie, c'est aussi eux qui, c'est le Crédit Agricole, certaines sociétés générales, etc., qui sont quand même les financeurs. Hein. Il ne faut pas oublier, mais on ne vous le dit pas.
Ah oui, bon, là, vous parlez d'autre chose.
Alors, quand on a des informations, je préfère reculer, me dire, je vais peut-être dans un chemin haram, quoi.
Non, justement, en fait, dans le monde de la crypto-monnaie, l'information, elle est disponible. Et c'est la grande différence, par exemple, avec le monde des actions. Aujourd'hui, sur le marché boursier, etc., il y a des informations auxquelles on n'a pas du tout accès. Quand on est un petit boursicoteur, dans son bureau. Mais dans le monde de la crypto, l'information, elle est disponible. Il faut juste être en capacité de l'analyser et de la lire. Et voilà, c'est un univers qui est peut-être un peu réservé aux informaticiens, mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dedans sans être informaticiens et qui ont compris comment ça fonctionnait. Parce que justement, l'information, elle est disponible. Parce que c'est décentralisé. C'est ça qui est intéressant.
Et si vous avez des questions à poser, tiens, justement, ce soir sur les crypto-monnaies, vous les posez à Boubker Hajdir au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Merci, Radija, pour votre question.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM. 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Il y a beaucoup de questions sur les crypto-monnaies qu'on pose aujourd'hui à Boubker Hajdir, qui est expert en finance islamique. Et au 01 53 48 3000, Marwan est avec nous. Marwan, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam.
J'espère que vous m'entendez bien.
Très bien.
Oui. Ok, ça marche. Je dois poser ma question maintenant.
Allez-y.
Ok. Bah en fait, j'aimerais savoir la différence entre le trading et la trading qui est halal. Ça va ? Et la crypto-monnaie, parce que j'ai l'impression que c'est le même principe.
Mais, est-ce que vous pouvez répéter ? Vous pouvez répéter, on vous a juste perdu quelques secondes.
Le trading et la crypto-monnaie, il dit que c'est pareil.
Non, je ne dis pas que c'est pareil, j'aimerais savoir la différence. Parce que d'après beaucoup de savants, bah, le trading est halal, justement, et la crypto-monnaie, bah, y a beaucoup d'avis qui divergent. À ce sujet.
Mais votre question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on peut faire du trading sur les crypto-monnaies ou... Parce que le trading, ça veut dire acheter, revendre.
Pourquoi le trading est halal et pas la crypto-monnaie ?
Le trading, oui, mais de quoi on parle ? Quand on parle de trading, ça veut dire que j'achète et je vends quelque chose.
C'est une activité.
Voilà. Voilà.
Alors que la crypto-monnaie, c'est une valeur.
C'est une marchandise, entre guillemets. Marchandise, ouais, voilà. C'est l'objet sur lequel je fais du trading.
Pour être plus précis, le trading d'action,
okay,
et le trading de crypto-monnaie.
Voilà, ok, très bien. Okay. En fait, aujourd'hui, sur la partie action, comme c'est quelque chose qui existe depuis des décennies et des décennies, les savants ont défini un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément consensuelles, mais qui sont admises par beaucoup de gens, qui définissent les règles sur lesquelles on peut identifier si une action est halal ou pas. Ok ? Donc il y a même une organisation qui est basée à Bahreïn qui a défini un standard dans lequel elle dit, voilà, quand j'achète en bourse, je dois regarder un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'activité. Est-ce que l'action que je suis en train d'acheter, elle est dans une activité halal ou pas halal? Donc je peux transposer cette réflexion déjà sur la partie crypto.
Mais même cette question-là, elle est ambiguë, parce que par exemple, je donne un exemple, une entreprise qui construit des voitures, elle est en bourse, d'accord? Mais elle a une trésorerie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle vend, elle fabrique des voitures, elle les vend, donc elle a un retour de industriel qui lui rapporte de l'argent, mais elle a aussi à côté une partie trésorerie qu'elle a déposée en banque et qui lui rapporte des intérêts.
Tout à fait.
À la fin, l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il va toucher les dividendes.
Tout à fait.
Il les touche grâce aux gains. Notamment
grâce à ça.
Voilà.
Donc effectivement, les savants ont déterminé un certain nombre de critères. Le premier critère, il est d'abord le secteur d'activité. Donc on regarde d'abord si l'activité, tu parles de l'exemple des véhicules.
Par exemple.
Très bien, ok, ils sont dans l'activité.
Peugeot, Renault.
Voilà. Sauf que quand on regarde ces grands concessionnaires, grands constructeurs automobiles, ils ont aussi une activité qui est très importante, qui est le financement. Donc en fait, quand tu achètes une action, tu achètes aussi l'activité financement, dans laquelle il y a du riba. Donc déjà, rien qu'au niveau de l'activité, il y a quelque chose qui ne va pas forcément.
Mmh.
Après, une fois que tu as passé le filtre de l'activité, tu regardes comment cette société se comporte sur le marché financier. Et c'est là qu'on regarde qu'est-ce qu'elle fait de son argent. Elle fait des placements court terme, etc., qui sont générateurs, généralement,
d'intérêts. Donc de riba.
Pas que, mais notamment de revenus riba, oui.
Toi, en tant que...
Et donc, les savants, ils ont déterminé un certain nombre de seuils de tolérance. OK ? Parce que s'ils disent « on fait rien », je ne serais pas en train de parler aujourd'hui dans votre studio de finances islamiques. Il y a eu un effort de réflexion pour permettre aux musulmans de rentrer dans ces marchés-là. Et aujourd'hui, on a ces critères-là. Mais ils disent, une fois que tu as gagné, tu dois purifier une partie de ton argent.
Voilà, c'est ça. Voilà,
on doit se débarrasser d'une
partie. Donc tu dois regarder la marge opérationnelle, voilà. Le pourcentage qui est lié à cette activité illicite.
Pour t'en débarrasser.
Et tu t'en débarrasses proportionnellement à ce que toi, tu as gagné.
Donc ça existe depuis des années. Aujourd'hui, on ne peut pas répliquer... On peut pas faire copier-coller de ce qui se fait en bourse sur la partie crypto, pour répondre à la question du frère. Parce que déjà, quand j'achète des cryptos, j'achète pas une action. OK? J'achète une promesse d'un service ou une promesse d'un produit. Donc c'est pas du tout la même relation contractuelle que j'ai avec l'entreprise qui fabrique la crypto. Et donc ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est que les savants n'ont pas encore déterminé de standard. Encore une fois, j'en reviens toujours à la même réponse. De quelle crypto je parle? Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à partir de là, on pourra dire si on peut ou pas trader cette crypto ou même tout simplement la détenir pour pouvoir la trader.
Merci pour votre question, Marwan. Kamel Chekat nous a rejoint. Bonsoir, Kamel.
Bonsoir à vous. Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam
wa rahmatoullah.
Marhaban, Kamel. Comment allez-vous? Khair. Allah yberfik.
Alhamdulillah. On fait aller. Alhamdulillah.
Ma'ana aujourd'hui dans le studio Yassine. Philippe, bien sûr, oui. Le Stade Abou Bakr Ajdir, expert en finances islamiques.
Voilà. Allah ybarak, salam
et Walid, maître Bouali aussi.
Je voudrais juste, je voudrais faire une petite remarque. Hein. Je vais sortir du sujet aujourd'hui. Pourquoi vous appelez ça finances islamiques?
Et pourquoi pas?
Non, parce que... Je pense que nous n'avons pas besoin de labelliser les choses par un islamique pour qu'elles deviennent halal. Là, il y a un prix Nobel, un ancien prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui disait que l'économie est une science morale. Et si je me réfère à Malik ben Nabi, il parlait de la morale économique de l'islam. Donc, dans la finance, je pense qu'il faudrait... beaucoup plus aller vers ça, pas vers une appellation, mais vers une pratique qui soit plus juste que ce que nous voyons en Occident.
Moi, je pense
que j'espère qu'un jour viendra que.
Ouais. Oui. Je pense que c'est tout simplement comme quelqu'un qui rentre dans un centre commercial où il y a de tout. Oui. Il y a du halal et il y a du non halal. Ce qui est halal, c'est ce qu'on appelle islamique. Et ce qui n'est pas halal, c'est ce qui n'est pas compatible ou qu'on appelle sharia compatible et sharia non compatible. Voilà, c'est tout. C'est voilà. Après, on appelle ça.
Boubker veut répondre à Kamel Chekat.
Oui, Kamel. Effectivement, je comprends.
C'est juste une question. Hein.
Votre question et votre préoccupation, elle est légitime parce qu'effectivement, finalement, dans un contexte donné, pourquoi mettre cette étiquette de islamique? Je peux même vous dire que dans certains pays musulmans, notamment au Maghreb, au Maroc, on n'appelle pas ça la finance islamique. On appelle ça la finance participative. On parle de El Bonouk Tasharoukia et non pas El Bonouk Islamia. En Algérie,
Je préfère ça, Sayrafa l'Islamia. Je préfère l'appellation marocaine à ce qui est en vigueur en Algérie.
Tasharoukia. Alors, mais en fait, après, c'est une question de communication et de marketing. Aujourd'hui, c'est une finance qui est organisée et reconnue en tant que telle. Dans certains États, il y a des textes de loi qui parlent de finances islamiques. Au Royaume-Uni, qui est un pays non musulman, ça fait des années et des années qu'on parle d'islamic finance. Et ça n'a jamais choqué personne. Oui. Et donc, aujourd'hui, islamic banking, islamic finance, c'est la même chose. Les banques ne sont qu'un compartiment de la finance. De la finance. Et donc, je comprends votre préoccupation, en particulier en France, où tout ce qui touche à l'islam et d'un point de vue de la communication, etc. Mais après, il faut aussi être honnête. Quand on utilise une autre appellation, comme par exemple les banques participatives, les gens ne comprennent pas de quoi on parle.
Donc ça les intéresse pas.
Dans les pays musulmans, on n'a pas cette éducation financière suffisante pour comprendre de quoi on parle. Donc je comprends votre préoccupation, mais en même temps, je vous invite à comprendre les préoccupations de ceux qui sont derrière, parce que finalement, on cherche à adresser un marché qui, effectivement, là où c'est important de dire, il n'est pas réservé aux musulmans. Ça, c'est important de le dire. Et beaucoup de non-musulmans qui comprennent ce qu'est la finance islamique en deviennent de très, très grands défenseurs. Parce que, justement, elle porte des valeurs...
Une certaine morale.
Je pense que même sur le plan pratique, ça peut constituer un bon levier en cas de...
Voilà, exactement. Voilà. Après, c'est une question de pragmatisme ou pas, mais je comprends que d'un point de vue... comme politique, etc., ça peut amener à débat. Mais le débat est ouvert. Et,
alors, voilà. Stéphane Kamel, il te reste 3 minutes.
Non, il ne reste pas 3 minutes. Alors, il reste 1 minute 30.
D'accord, alors. L'yaqin ou la yazoulou bichek. La certitude ne peut être dissipée par le doute. Hier, nous avons parlé des différentes catégories du doute en rapport avec ce qui est à la base licite ou illicite. Et aujourd'hui, nous allons parler, on va commencer par parler du doute qui intervient pendant un culte. Alors, l'exemple que donnent généralement les juristes, c'est celui d'une personne qui est en train de faire salat d'or avec 4 génuflexions. Elle arrive à la fin de sa prière, mais elle ne sait pas si elle a accompli 4 ou 3 génuflexions. Cette même règle nous pousse à agir par excès, et à partir de là, on va choisir ce qui est le plus sûr, à savoir, je n'ai fait que 3 génuflexions. J'en fais donc une 4e, au risque d'en faire une 5e, et à la fin de la prière, après le salut, Ba'da Tslim, je procède à une réparation de cette prière, là encore, par mesure de sécurité, et je fais 2 prosternations, Sajdatayn avec Tashahoud et Tslim. Donc là, c'est pour montrer que même quand il y a un doute qui s'installe pendant le culte, il y a toujours moyen de l'évacuer par une mesure qui va nous garder plein pied dans le culte et dans la sérénité que devrait nous procurer ce culte. Voilà donc pour aujourd'hui et nous poursuivrons demain, Inch'Allah.
Merci Kamel et on vous retrouve demain. Merci Kamel.
À demain, Inch'Allah.
À demain.
Au revoir.
Je rappelle Ramadan Enko. Reviens dans un instant. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et ce soir nous parlons des crypto-monnaies avec notre invité qui s'appelle Boubker Hajdir. Yacine Ilmi nous a rejoint. Bonsoir Yacine.
Bonsoir à tous.
Comment allez-vous Yacine?
Bah écoutez, tant qu'il fait beau...
Finalement vous n'avez pas vu Macron?
Ah non, ça a été,
reporté.
Le programme a changé.
Reporté après les élections. Bien, sur la question des crypto-monnaies, quel est le statut des crypto-monnaies, par exemple, comme des pays, les pays du Maghreb?
Ah, ça c'est une bonne question ça.
Ou les pays musulmans en général, même la Turquie, c'est intéressant de savoir ce qui se passe par exemple.
Alors les pays du Maghreb, parce que j'ai regardé récemment, ont pour l'instant interdit de façon formelle le recours ou l'utilisation de crypto-monnaies. au Maroc, je lisais il y a pas longtemps qu'une personne a été condamnée parce qu'elle proposait des services sur les crypto-monnaies. Et donc, parce que, voilà, l'autorité, en l'occurrence ici, c'est la Banque Centrale.
Ils l'ont carrément condamné ou bien il a été averti, hein?
Non, il est passé en jugement, là. Donc, ouais, il a été averti peut-être plusieurs fois et puis là, après, voilà.
Il a dépassé, il n'a pas voulu écouter.
Voilà. En Algérie aussi, il me semble que c'est toujours interdit. En Tunisie, j'ai pas regardé, mais, voilà.
Alors, quel danger, justement, ont ces pays vis-à-vis de cette monnaie crypto?
C'est un peu ce que la question posée par la sœur tout à l'heure. C'est le détournement, l'évasion fiscale, etc., etc.
Bon, le blanchiment.
C'est ce qui fait peur aux autorités, c'est ça. Le fait que c'est un univers pseudonyme.
C'est vrai que, par exemple, on a gagné beaucoup d'argent de la drogue. Et on ne sait pas quoi faire cette
drogue. Pas forcément dans la drogue, ça peut être de façon tout à fait légale, mais après, voilà, c'est pour l'autorité, c'est une perte de contrôle.
Ah, d'accord.
C'est une
question de perte de contrôle.
C'est plus elle qui émet la monnaie, c'est plus elle qui gère. Donc, à partir du moment où elle perd ce pouvoir-là, ça la dérange. Et d'ailleurs, à l'échelle internationale, Facebook avait le projet de créer sa propre crypto-monnaie, qui s'appelait à l'époque le Libra. Et le monde entier s'est levé contre Mark Zuckerberg et tous les partenaires avec lesquels il travaillait. Au fil du temps, plusieurs de ses partenaires l'ont laissé tomber parce qu'il y a la pression des autorités, des pouvoirs politiques qui veulent pas perdre justement ce pouvoir-là, qui est celui de contrôler ce que les autres appellent la monnaie, qui pour l'instant juridiquement n'est pas considérée comme de la monnaie, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà. Et donc dans d'autres pays comme l'Indonésie aussi, on dit que la crypto-monnaie est interdite. Mais en même temps, dans tous ces pays-là, il me semble que c'est l'Indonésie, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais si je dis une bêtise, un auditeur se fera un plaisir de me corriger. Mais dans tous ces pays-là, on est en train de réfléchir à créer ce qu'on appelle une crypto-monnaie centrale, ou alors une monnaie digitale centralisée, pour être plus précis. Donc on parle en Europe bientôt de l'euro numérique. Donc ça, c'est pour certains, c'est imminent. Hein,
C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de monnaie, on aura juste la carte ou même le téléphone.
Tout va être centralisé, on imagine dans l'avenir.
Ton argent sera dans ton téléphone.
Ton argent ne sera pas que dans ton téléphone, il ne sera plus dans ta banque au coin de la rue, il sera à la banque centrale directement. Et c'est là où il y a un vrai sujet de liberté et de derrière, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. On parle de passeport vaccinal, de passeport, beaucoup de choses, donc tout est centralisé après au niveau des mêmes personnes. Et les grands défenseurs des crypto-monnaies luttent contre, justement, la concentration des pouvoirs sur une seule et même entité.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des musulmans qui nous écoutent ce soir et qui ont de l'argent à investir, beaucoup d'argent à investir? On leur dit, achetez un bitcoin?
Alors, on peut leur dire, ça dépend de combien on parle.
Au moins à partir de 100 000.
Moi, je suis plutôt de ceux, peut-être l'ancienne école, qui va dire, si tu as 100 000 euros à placer, regarde d'abord autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de cet argent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un vrai projet dans ton entourage, dans ton, comment on dit, le love money, ta famille, proche, éloignée, amis, etc. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'argent et qui, pour certains, ne peuvent pas emprunter pour des raisons notamment religieuses, et qui cherchent du capital. Donc pourquoi pas d'abord regarder là. Après, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc si on peut trouver des projets à soutenir, on n'a qu'à les soutenir. Bien sûr, si ces projets-là sont rentables et, comme on dit, bankable, ce n'est pas juste parce qu'il est porté par un musulman qu'il faut investir dedans. Il faut en plus qu'il y ait des caractéristiques financières intéressantes. Et pourquoi pas placer un peu dans d'autres supports, dont les crypto-monnaies, mais encore une fois, les crypto-monnaies, faire très très attention dans quoi j'investis, et surtout que c'est un univers, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, très volatile. Et donc, tout le monde dit, dans les crypto-monnaies, il ne faut mettre que ce que je suis prêt à perdre. Donc, cette notion de qu'est-ce que je suis prêt à perdre,
la punchline du soir, ça.
Elle dépend de chacun d'entre nous. Celui qui a 100 millions, il est prêt à perdre peut-être 1 million ou 10 millions facilement. Celui qui a juste 100 euros, quand il perd 10 euros, ça lui fait très mal. Donc voilà, tout dépend de quoi on parle. Et je recommande plutôt aux gens qui ne sont pas dans cet univers-là d'attendre que les choses s'organisent un petit peu plus sur le plan professionnel, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans cet univers-là, dont moi, modestement, j'essaie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice dans cet univers pour pouvoir proposer des choses dans lesquelles les gens pourront investir sereinement d'un point de vue déjà de la conformité islamique. Après, d'un point de vue de la performance, c'est-à-dire ce que ça rapporte, il faut aussi garder à l'esprit que c'est pas parce qu'un investissement est halal qu'il rapporte. Ok. Donc quelqu'un qui vous conseille en vous disant ça c'est halal, ça ne veut pas dire que tu vas gagner de l'argent. Ça c'est aussi un élément de très important parce que les gens pensent que, enfin, pas tous, mais souvent on nous dit oui mais si c'est halal c'est que ça rapporte. Ben non, c'est pas synonyme en fait. Donc ça c'est un élément important à ne pas perdre de vue.
Et comment s'assurer que cette crypto-monnaie elle est bien liée à un produit ou à un service?
C'est une très bonne question. Bah, il faut faire des recherches, il faut faire de l'analyse, il faut regarder d'abord la première chose qu'on regarde dans le monde des cryptos, c'est ce qu'on appelle le white paper, le livre blanc. C'est le document écrit par les fondateurs qui explique l'objet de la crypto, le projet, qui est derrière, etc., etc. Donc ça, c'est important. Après, on va regarder la communauté. Donc, tout ce qui se dit par les gens qui entourent ce projet-là. Et puis après, on va regarder la presse, etc., etc. Et puis, très souvent, les cryptos où on ne sait pas qui est derrière, à part le Bitcoin, ok, parce que on parlait du Bitcoin tout à l'heure, on dit que c'est Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas si c'est une personne, une société, enfin bref, un groupe de personnes. Mais aujourd'hui, les cryptos, la plupart du temps, sont portés par des individus. Ben, il faut regarder qui sont ces gens-là, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils promettent, etc. Mais encore une fois, faire très attention parce qu'ils poussent les crypto-monnaies plus vite que beaucoup d'autres choses. Et il y a beaucoup d'arnaques aussi derrière, donc de faux projets ou de fausses promesses. Et voilà, donc c'est là où il faut faire très très attention. On appelle ça des scams, S-C-A-M, donc c'est des projets bidons sur lesquels c'est de l'arnaque derrière. Voilà.
Il existe un listing, par exemple, des crypto-monnaies qui sont Sharia compliant ou qui sont compatibles avec la finance islamique ou les préceptes de l'islam.
Il y a des sites anglophones qui ont fait ce travail-là de dire telle et telle crypto, elle pourrait être conforme parce qu'elle répond à telle et telle chose. Oui, il y a, mais sont en anglais, donc bon. Et là, j'invite les gens à taper, à demander à Cher Google. Qui trouvera qu'est-ce que c'est une
c'est
des
grand
réponses,
concurrent, mais il est beaucoup moins, il a beaucoup moins de réponses que le Sher Mamoun. Hein.
Ah oui. Alors peut-être un peu plus sur la partie crypto parce que comme il disait tout à l'heure, c'est un univers qu'il découvre.
Oui, je connais pas assez bien la question. Enfin, j'aime pas encore bien.
Vous donniez un chiffre.
À la lumière du Coran et de la Sunna, c'est compliqué.
Boubker tout à l'heure, combien de personnes en France ont acheté des cryptos?
On dit, je crois, que c'était 7 ou 8% des Français détiennent des cryptos. Donc c'est un phénomène,
déjà, hein,
ce qui est pas mal. C'est un phénomène qui a une dizaine d'années, donc c'est nouveau. Et bon, comme tout ce qui est nouveau, comme on dit très souvent, on dit attention, c'est ridicule. Ensuite, on dit attention, c'est dangereux. Et puis après, ça devient la normalité.
Schopenhauer.
Voilà, donc, donc peut-être que dans quelques années, voilà. Alors, c'est comme Internet. Hein. Internet, en fin des années 90, les gens disaient, l'avenir, c'est le Minitel. Et donc, bon, voilà, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, peut-être qu'avec les cryptos, dans quelques années, ce sera derrière nous.
Le jour où ce sera taxé, à ce moment-là, on comprendra.
C'est déjà taxé. C'est taxé. Ouais. 30%. Il y a une flat tax sur les cryptos. Quand tu sors de la crypto, que tu repasses à la monnaie normale, tu payes 30%.
Et qui reçoit ces 30%?
C'est l'État. C'est l'impôt.
Ouais. Bien. En tout cas, vous ne serez pas imposé sur les gains que vous ferez au grand quiz du Ramadan.
Ah.
Ce soir, nous allons accueillir nos candidats. Mais avant ça, Yacine, rappelez-nous les règles du grand quiz du Ramadan.
Alors, deux personnes ou deux familles ou deux groupes s'affrontent, hein, doivent répondre à trois questions. Et la dernière question, c'est la question de l'imam. Elle vaut 2 points.
Donc, voilà, c'est la question déterminante.
C'est la question déterminante.
High level.
Pour pouvoir répondre, il faut donner son nom, tout simplement. À partir du moment où vous avez donné votre nom, on vous donne la parole. Mais vous ne pouvez pas répondre si on ne vous a pas donné la parole. Donc ça, c'est très important. Sinon, on passe la main au suivant.
La question de l'imam, la crypto à côté, c'est facile. Hein,
vous allez voir,
c'est très, très,
tu
très facile.
Tu verras que la question de l'imam, c'est du balèze. Hein. C'est du lourd.
Je rappelle que le gagnant de la manche ce soir repartira avec une télévision 4K ou un aspirateur sans fil de chez notre partenaire, Mo le Patron.
C'est quoi, Mo le Patron?
Ben, Mo le Patron, c'est notre partenaire. Mo le Patron. Regardez, googlez Yacine. Ouais, allez-y.
Ouais.
Mm-hmm. Vous pouvez y aller, Yacine. Alors, 01 53 48 3000, vous vous êtes inscrit pour jouer avec nous et nous accueillons ce soir Inès. Inès, bonsoir.
Bonsoir.
Oh, il y a plusieurs Inès.
Ah, oui, elle n'est pas toute seule, Inès.
Ah, ouais.
Qui y a avec toi, Inès?
Il y a ma maman.
Oui. Qui s'appelle comment, ta maman?
Fatima.
D'accord. Et toi, tu as quel âge, Inès?
11 ans.
Très bien. Alors, si tu as mis le haut-parleur ou le kit main libre, je veux bien que tu l'enlèves. Comme ça, on pourra mieux t'entendre.
Bah, je dis qu'on ne peut pas l'enlever, sinon ça ne marche pas.
Voilà.
On ne peut pas l'enlever, sinon ça ne marche pas.
Ah bon, bon bah alors il va falloir que tu fasses bien attention. Inès, tu habites où ?
À Chelles.
Très bien. Bon, alors tu viens jouer ce soir avec Iliès. Iliès, bonsoir.
Ah oui, bonsoir.
Bonsoir Iliès. Donc toi, t'as quel âge ?
J'ai 10 ans.
D'accord. Et tu joues avec qui ce soir ?
Alors, je joue avec ma
sœur
Yasmine, qui a 15 ans. Bonjour.
Bonjour Yasmine.
Salam alaikum Yasmine, ça va ?
Oui, ça va.
Voilà, donc ça c'est la team d'Eliès, et vous nous appelez d'où ce soir ?
Romainville.
Très bien. Donc vous avez bien compris que si vous voulez répondre à la question, il faut d'abord donner votre prénom et attendre qu'on vous donne la parole. C'est bon pour vous ?
Oui, oui.
Très bien. Alors Maître Boily, on a un nouveau générique, on va étrainer notre nouveau générique.
Ramadan & Co, le quiz du Ramadan avec Mo le patron, magasin d'électroménager, neuf et de marque à prix discount. Ah
bon. Voilà, Mo le patron qui nous accompagne.
Elle est dictionnaire.
Allez Yacine, on y va pour la première question.
Alors écoutez bien, vous êtes prêts ? Première question, on est toujours dans le mois du Coran, donc ce sera une question relative au Coran. Quelle est la sourate où il est stipulé à vous votre religion et à nous la nôtre ? Quel est le nom de la sourate ?
Iliès. Alors vas-y, Iliès.
Iliès ou Inès ?
Non, mais non, c'est Iliès d'abord. J'ai entendu Iliès. Moi, j'ai entendu Iliès en premier. Alors, il est où, Iliès ?
Al-Kafirun.
Sourate Al-Kafirun. C'est Iliès qui parle ou pas ?
Oui.
D'accord. Il dit oui, dit c'est moi, Iliès, je dis Al-Kafirun. C'est la bonne réponse. Oui. Mashallah, Alek.
Et Iliès marque un point.
Donc en arabe, c'est que ça se dit comment ?
De quoi ?
Bah, à vous votre religion, à moi la mienne.
Inès.
Mais non, c'est pas une question, c'est juste un complément.
Non, mais elle peut le
dire. Je vais te dire, Iliès, vas-y.
Allez, Inès, on t'écoute, Inès. Dis-nous. Lakoum ?
Lakoum, dis-nous, comme Waliyadine.
Ouais, voilà, allez, comme. Et moi, je pense que c'est ce verset-là qui est véritablement la base du vivre ensemble. À vous votre religion, je la respecte. Et à moi la mienne, vous la respectez. Voilà, c'est tout simplement, c'est magnifique.
Bon, Iliès, tu marques un point. Inès, tout est encore possible. Donc, deuxième question, Yacine.
Deuxième question. Quel est le nom du compagnon qui a accompagné le prophète lors de son émigration à Médine ?
Iliès.
Mais j'ai entendu qui en premier, là ?
Moi, j'ai entendu Inès.
Allez, Inès.
Allez, Inès, vas-y.
Abou Bakr Siddiq.
Oh là là. En plus, ça, parmi nous, on a. Parce que c'est à cause d'Abou Bakr Ashdir qui est avec nous,
oh
c'est
là
ça
là, Non.
Là, il y a de la triche, là, Abou Bakr. Qu'est-ce qu'il nous a fait quoi, là, aujourd'hui ?
Non.
D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec toi.
Je la connais pas, Inès. Mais félicitations.
Tu t'appelles Abou Bakr.
Oui, Abou Bakr.
Du nom de ce calife qui a accompagné le prophète lors de l'immigration. Donc, la Hijra s'est faite effectivement en compagnie de ce. Thani ethnani idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi. La tahzan innallaha ma'ana. Sahibu huwa. Ouais, Abou Bakr,
ouais. Non. Bah, en tout cas, elle a répondu sans hésitation.
Bon, bravo. Donc, 1-1, ça fait 1, voilà. Là, c'est serré, là. Voilà. Là, c'est serré.
Bravo, Inès. Tu as répondu avec foi et conviction.
Bien. La troisième question va peut-être vous départager. En tout cas, va forcément vous départager. Yacine.
Alors, troisième question. Écoutez bien, parce qu'il peut y avoir un petit piège. Qui est le premier être humain qui mourut sur Terre ? Qui est le premier ?
C'est qui ? Qui c'est qui a dit ?
Yasmine ?
Non, mais il faut dire le prénom qu'on avait dit, là, c'est quoi ? C'est soit Iliès, c'est quoi le premier ?
Iliès
ou bien ?
Inès,
voilà. Donc là, c'est qui répond ?
Iliès,
d'accord. Vas-y, Iliès, c'est quoi ?
Alors, le premier homme à être mort sur Terre, c'est le fils d'Adam.
Et il s'appelle ? Donc, il a été assassiné par son frère, c'est vrai. Donc
prénom.
c'est Caïn qui a tué. Il a tué qui ?
Son frère.
Et comment il s'appelle ?
Bon, je crois qu'Inès va reprendre la main.
Alors,
là.
Et Inès, tu as la réponse ? Inès, c'est ça, Inès.
Caïn, il a tué son frère, mais je me rappelle plus du prénom de son frère.
je me rappelle plus.
Oh là, c'est mal barré là.
Donc, bon,
Baz.
Goulou Baz.
Goulou Baz.
On s'est dit Baz.
Donnez la langue au chat ou salam alaikum.
Goulou Baz.
Wa hal ataka naba'a bni adama id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar qala la aqtulannak.
Bon.
Qala la aqtulannak. Alors, la jalousie l'a poussé à tuer son frère.
Personne n'a donné la réponse.
Qu'a tué Abel, Habil en arabe Habil. Et le prénom de cet homme qui est mort, le premier fils d'Adam, qui a été assassiné par son frère Caïn, par jalousie, parce que Dieu avait agréé son offrande, alors que Caïn n'a pas reçu la bénédiction divine de son offrande. Voilà.
D'ailleurs, il y a une petite technique pour savoir qui est celui qui a tué. Quand vous dites Qabil, Qabil c'est celui qui a tué.
Qabil, Qatala, Habil. Qabil, Qatala, Habil. Habil, Meskin, Rahfil, voilà, Fitourab. Non, effectivement.
Bien, imam.
C'est pour la première fois que un corbeau a enseigné à l'homme à enterrer les humains, puisque les hommes à partir de là ont commencé à enterrer leurs prochains. Tout à fait.
Bon, imam, c'est vous qui allez départager.
Alors un partout, et là c'est la question déterminante. Oh là, là j'ai des high level.
Il y a un générique pour la question de l'imam.
Voilà, un petit générique. Bah, attends, il y a pas un petit
Yassine,
truc là.
On a du budget, mais attends.
Pas abusé quand même.
By step.
By la step. Question de l'imam. Allez, on y va. Non, pas besoin. Par moi, le patron.
On y va. Alors, les musulmans ont traversé la mer Rouge pour venir propager l'islam en Afrique. Le premier homme qui a fait cette action, c'est un compagnon du prophète. Son surnom, c'est le génie des Arabes. Il s'appelait Dahiyatul Arab. Et j'aimerais bien savoir, c'est comment s'appelle-t-il ? Et c'est lors de la bataille de Bab el-Youn, dans laquelle il a battu les Romains, parce que c'est les Romains qui avaient annexé l'Égypte à l'époque, qu'il a réussi à battre ses adversaires, grâce aussi à des locaux qui appréciaient l'arrivée des musulmans, parce que la tyrannie romaine ne les convenait pas. Et ils préféraient être sous la régence des musulmans que d'avoir une régence romaine qui les taxait, qui les humiliait, etc. Et en plus, qui ne leur donnait pas la liberté de conscience religieuse, alors que l'islam le permettait. Alors, comment s'appelle cet homme qui a donc été à la tête de cette armée qui a donc propagé l'islam en Égypte? Voilà. Et qui a permis aux chrétiens de rester chrétiens, parce qu'il y a les Coptes qui sont restés égyptiens. Alors Inès, vas-y.
Khalid al-Walid.
Ah, mauvaise réponse, c'est pas Khalid al-Walid. Khalid al-Walid, il a conquis le Cham. Et le Cham, il a aidé aussi pour la Perse, l'Empire Perse. Mais c'était d'abord le Cham, lui, puisqu'il est même mort à Homs. Il est mort à Homs, une des grandes villes syriennes. Mais ce n'est pas Khalid Mouarid.
C'est Ilyes qui prend la main.
Est-ce que tu connais le nom de ce compagnon qui a conquis et qui est devenu même l'émir d'Égypte? Il est devenu l'émir.
Booker, vous l'avez?
J'ai un doute. Non. Pas sûr.
Vas-y.
Il est enterré où?
Hein?
Il est enterré.
Il est enterré au Caire.
C'est pas Amr.
Non, c'est pas lui.
Oui, c'est ça. Ouais.
Amr ibn al-As.
Amr. Ah, c'est...
Ouais, mais là, tu donnes la réponse, là. Que tu fais quoi, là? Attends, Ilyes, il doit donner la réponse.
Non, mais ils avaient
ça y est, c'est bon, il n'y a personne qui a la réponse. D'accord.
Ilyes.
Bon, non, alors attendez, je pense que le mieux, c'est que je repose une autre question moins dure. Ouais, vous êtes d'accord? Vite fait. Alors, une question simple. Vous êtes prête?
Oui.
D'accord, on y va. Alors, comment s'appelle le nom du quatrième calife de l'islam?
Inès,
vas-y.
Othman.
Non, mauvaise réponse. Ilyes. Ilyes.
Ali
ibn Abi Talib, bonne réponse. Voilà, ça c'est
Ali.
Donc c'est Ilyes qui a eu la bonne.
Bravo Ilyes.
Et Ilyes, tu marques 2 points avec cette réponse à la question.
Othman, c'est le troisième calife. Othman. Abou Bakr, c'est le premier, voilà, qui est avec nous ce soir. Omar est le deuxième. Voilà. Le troisième, c'est Uthman, et le quatrième, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in. Voilà.
Bon, alors, tous les deux, vous repartez, Inès et Ilyes, avec l'emblématique Aidbox, qui fête ses 10 ans cette année. Bon, avec des confiseries végétales, des pâtes de fruits, des sucettes sans gélatine animale.
Il y a même écrit dessus Aid Mubarak.
C'est ça, exactement.
Sur la sucette, hein. Mashallah.
Voilà, donc ça c'est pour chacun d'entre vous offert par notre partenaire d'Art des Délices. Et puis notre grand gagnant ce soir c'est Iliès. Alors est-ce que tu sais avec quoi tu repars, Iliès? Il faut que tu repartes soit avec une télé, soit l'aspirateur sans fil. Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Une télé.
Tu préfères la télé?
Bon, de toute façon, il aura le droit de réfléchir. Quoi.
Tu réfléchis.
Il va réfléchir.
Ouais, je crois qu'il n'avait pas l'air très tenté l'aspirateur. Par l'aspirateur. Hein.
D'accord. Je pense que, parce qu'il doit déjà en avoir un à la maison. Et...
Bon, la télé qui t'est offerte, qui est offerte par notre partenaire, donc c'est Mo. Hein,
comment tu as dit qu'il s'appelle?
Moi.
Ouais, prononce-le, Yassine.
Moi, le patron.
Mo, le patron. C'est Mo, le patron. Voilà. Merci à tous. Ilyes, tu veux passer un message à quelqu'un?
Oui, à ma grand-mère. Du coup, je fais des gros bisous. Et à toute ma famille.
Bravo.
Je te rassure au cours à tous les musulmans.
Voilà. Et Inès, est-ce que tu as un message à passer ce soir?
Oui, à toute ma famille. Et Ramadan Moubarak
à tout le monde. Je te fais un gros bisou.
Voilà, bravo. Une autre manche demain. Je rappelle que dans un instant, c'est peut-être vous qui serez le very important auditeur, celui qui terminera la soirée avec nous et qui repartira avec un coffret parfum plus un assortiment de 3 parfums d'ambiance. Et c'est offert par Maïssa Parfum, un coffret d'une valeur de 315€.
Ramadan & Co revient dans un instant. Les grandes signatures du Ramadan, le Coran et sa traduction en français, Ramou Vision.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
Et 11 pour le Hajj, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné.
نافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
Avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Puis qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'il fasse les circuits autour de l'antique maison. Voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Ce qu'on vous a cité vous a été rendu licite. Sur des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères.
حنفاء لله غير مشركين به. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
En acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond.
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
Que les injonctions sacrées d'Allah s'inspirent en effet de la piété des cœurs.
منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison.
جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
Un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Certain Dieu unique, soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent, ceux qui les atteint, et dépenses de ce que nous leur avons attribué.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر خرناها لكم لعلكم تشكرون.
Chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, afin que vous soyez reconnaissants.
نال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
Leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Assujetti, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin, appel aux bienfaisants.
Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulli khawanin kafur.
Défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat.
Ina yuqataluna bi annahum zulimu wa Allah ala nasrihim laqadir.
Et à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir.
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ادعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
Contre toute justice simplement parce qu'il disait Allah est notre Seigneur. D'autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah, ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan sur beurrefm.net. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co, avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et dans 3 minutes, l'ADN en direct à 20h55. Si vous habitez Paris, Boubker Hadjir est avec nous, restez avec nous. Nous avons Yacine Ilmi qui est là, Mister Quiz, mais je vais demander à Boubker de désigner l'auditeur VIA de ce soir avec un numéro de entre 1 et 6.
Entre 1 et 6, je vais prendre le numéro 1.
Alors, le numéro 1, bonsoir, c'est vous, le very important auditeur, le VIA.
Bienvenue.
Bonsoir.
C'est de Saint-Denis, je crois.
Bonsoir.
Allô ? Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ?
C'est Sari.
Sari, bien. Et d'où vous nous appelez ce soir, Sari ?
De Saint-Denis.
Très bien. Eh bien, vous êtes la very important auditrice et vous terminez la soirée avec nous. Ben, ça fait plaisir de vous faire plaisir. D'autant plus que vous partez avec un coffret de parfums offert par Maïssa. Donc, vous avez le coffret de parfums et un assortiment de 3 parfums d'ambiance. Voilà, pour vous, d'une valeur de 315 euros.
Mashallah, Ali. Mashallah. Sahtek.
Avec qui est-ce que vous êtes ce soir ?
Je suis avec ma famille, ma vie, mes enfants.
Oui.
Moi, Cyril, Yacine, Fater. C'est mes 3 enfants.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes à qui vous voulez envoyer un message ce soir ?
Déjà à tout le monde, c'est très important, à ma mère, à mon beau-frère et sa femme, ma copine Céline et l'association dans laquelle je fais partie, la Lumière de l'Ange Zaina.
Machallah. Très bien. Qui fait quoi ? Vous faites quoi dans votre association ?
Alors nous, à la base, c'est le geste de premier secours.
Oui.
On offre le geste de premier secours à toutes les femmes qui sont à leur domicile. Parce que, en sachant qu'un geste de premier secours, aujourd'hui, une formation coûte 70 euros. Mmh. Et on préfère les offrir pour éviter les accidents. Mmh. Et pendant le ramadan, si Dieu nous le permet, une fois par semaine, on fait le sport.
Machallah, superbe.
Super association. Voilà.
Super association.
Voilà. Ça arrête quand même.
En tout cas, merci d'avoir terminé la soirée avec nous.
Merci à vous pour tout. Et que Dieu vous facilite. Et merci pour toute cette radio.
Merci, Sarah.
Amin.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurrefM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Votre générosité fait toute la différence. Soutenez les actions du Secours Islamique France sur secours-islamique.org. Ramadan, célébrons le partage.